Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment allez-vous les amis? J'espère que vous êtes en forme. C'est l'heure du podcast des maternelles. Le podcast des maternelles, aujourd'hui on parle de l'acceptation de la différence chez les enfants qui naissent, vivent avec une différence marquante. C'est le témoignage de Sonia que vous allez entendre dans un instant. Puis derrière nous serons avec un pédopsychiatre, le docteur Romain Dugravier, qui nous dira comment faire pour accompagner les enfants dans leur quête d'origine et encore plus lorsque cette question de la différence entre en jeu. On écoute.
Je parlais tout à l'heure en introduction de cette émission d'une ode à la différence. C'est ce qu'on va vivre ensemble avec vous, Sonia. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors Sonia, vous avez un sacré parcours. Hein. Vous avez été abandonnée à la naissance. Vous avez été adoptée par une famille ultra aimante. Ça ne vous a pas empêché de vouloir retrouver vos parents biologiques. C'était vraiment quelque chose qui était très ancré en vous. Ça n'a pas été facile d'accepter votre différence. Vous avez vécu des moments très difficiles, notamment à l'adolescence. Mais vous avez trouvé cette force. D'abord, la force d'affirmer vos choix, la force d'imposer qui vous êtes vraiment. Et aujourd'hui, vous attendez un bébé. Oui. Vous êtes enceinte de 7 mois, c'est ça?
C'est ça.
Bientôt 8?
Oui, un petit garçon.
Un petit garçon qui va arriver. Vous allez nous raconter tout ça. Il y a beaucoup à dire, donc on y va direct. Vous êtes née en mars 1983. Vous avez été adoptée quelques mois plus tard, alors que vous aviez 15 mois. Vous avez grandi dans une famille d'une grande fratrie, parce qu'il y avait 7 frères et sœurs, donc 5 qui étaient adoptés comme vous. Alors, c'était quoi votre place dans cette famille? Comment vous vous sentiez?
Alors, j'ai été très, très chouchoutée par mes frères et sœurs. En fait, je suis arrivée dans une famille où il y avait déjà 5 enfants. Mmh. J'étais la 6e. Et ensuite, j'ai une petite sœur adoptée quelques années plus tard qui, au moment de l'adoption, avait 7 ans.
D'accord. Donc, tout ça était très cosmopolite. Il y avait plein aussi d'origines différentes, c'est
ça? Tout à fait. J'ai un frère d'origine asiatique et une petite sœur donc, d'origine haïtienne et moi qui suis d'origine algérienne.
Est-ce que vous parliez avec vos parents de votre origine, justement? Est-ce que vous leur posiez des questions sur ces origines?
Alors, on n'osait pas trop. Hein.
Ah, c'est vrai?
Oui. Alors, j'avais peu d'infos sur les raisons de mon abandon. Effectivement, ils savaient que c'était par rapport au handicap, mais dans le contexte familial, ils n'avaient pas plus d'infos que ça. Le sujet de la recherche des origines était un petit peu tabou.
Elle n'aimait pas votre maman?
Ma mère, quand elle voyait les émissions qui abordaient ce sujet-là, elle n'était pas très à l'aise. Elle demandait ce que ces jeunes allaient chercher à travers ces quêtes des origines. Et moi, je me sentais un petit peu coupable de poser des questions.
Mmh. Elle avait peur de sa légitimité de maman, qu'elle soit remise en question, en fait, si vous recherchiez votre mère biologique, quoi.
Sûrement. Et puis moi, de mon côté, il y avait une espèce de conflit de loyauté par rapport à ça. C'était compliqué au quotidien, mais après, les choses ont évolué.
Oui. Alors, vous aviez quand même très envie, vous, de connaître vos racines et de faire des recherches aussi. C'est venu quand? À quel moment? À quel âge?
Alors, en fait, c'est une leçon d'anglais, quand j'étais en 5e, qui quand même a commencé à me poser des questions. C'était la leçon, alors je prononce bien, « How do you look like? I look like too. »
Ouais, oui, c'est ça. Alors, à qui je ressemble? Je ressemble à.
Voilà.
Ouais.
Et donc, il fallait répondre à cette question lors d'un devoir d'anglais. Et moi, je me suis sentie illégitime de répondre à cette question, alors qu'il s'agissait simplement d'un devoir d'anglais. Moi, ça reposait toutes les questions autour de à qui je ressemble, le rapport au miroir. Et il y avait ce rêve aussi qui revenait sans arrêt de cette mère que j'imaginais avec mes cheveux, je ne sais pas pourquoi, mais ces cheveux qui revenaient. Et c'est vrai que c'est des histoires de ressemblance, de à qui on ressemble et la légitimité de le de dire.
Et puis l'appartenance aussi.
C'est ça. Hein. L'appartenance à une filiation qu'on ne connaît pas.
À une lignée, quoi, c'est peut-être ça. Aussi. Alors, le collège, c'est souvent une période difficile avec tout ça, avec votre différence, etc. Comment est-ce que vous avez vécu cette période?
Alors, quand j'étais au collège, je suis rentrée, je faisais à peine 1 mètre. Mon handicap, c'est le nanisme, ma chondroplasie. Je faisais donc 1 mètre et j'étais sujet à beaucoup de moqueries.
Vraiment, concrètement, personne ne vous protégeait?
J'avais un petit noyau de camarades qui étaient là tout le temps, mais c'était vraiment difficile. Alors, de la part des enfants, j'avais des moqueries, puis de la part d'adultes, qui étaient plus surprenants, quelques humiliations.
Quel type, par exemple?
Je me souviens de cette chorale. On préparait le spectacle de Starmania. Mmh. On nous avait demandé nos tailles de vêtements pour les costumes et puis nos tailles. Et on nous a appelé, la chef de chœur nous a appelé par ordre de taille. Et moi, quand elle m'a vu arriver, elle a eu un mouvement de recul. que j'ai pris ça comme vraiment une forme de réticence par rapport à vraiment toutes mes particularités, au-delà de la petite taille, de voir une personne naine au premier rang, pour elle, ce n'était pas possible. Et elle m'a fait reculer d'un rang.
Oui, donc vous êtes retrouvée derrière des gens plus grands que vous, on ne voyait plus, quoi.
Oui. Et c'était, c'était vraiment, de la part d'une adulte, c'était un petit peu surprenant. Et de cette anecdote-là, j'en ai parlé à ma mère qu'à 25 ans, parce que je n'avais pas envie de lui créer plus de soucis qu'elle n'avait par rapport à conditions de santé qui nécessitaient mon handicap.
C'est dur. À 19 ans, vous avez quitté le domicile familial pour suivre des études de communication à Vichy. Et puis à l'âge de 21 ans, vous êtes installée à Clermont-Ferrand. Et c'est à ce moment-là, quand vous installez dans la vie active, que là, la quête des origines, j'imagine ça va avec votre autonomie, votre indépendance, ça revient, quoi. Vous avez envie de savoir, là.
Oui, tout à fait, parce que à ce moment-là, je sais que je suis suffisamment indépendante et autonome pour vraiment faire cette quête pour moi-même. Sans en parler, bien sûr, à mes parents. Ça a été très facile pour moi parce que j'ai été reconnue par mes deux parents biologiques.
Et donc vous les avez retrouvés très facilement?
Oui, voilà. Très facilement. C'est-à-dire que j'ai demandé mon dossier au conseil départemental de là où je suis née. Mmh. Et ensuite, j'ai eu accès à plein d'infos concernant mes parents, donc leur identité, les raisons de l'abandon, qui confirmaient donc que j'avais été abandonnée à cause du handicap. Et c'est-à-dire que vraiment,
ça vous a pas bouleversé, ça, de lire ça quand même?
Si, mais dans la mesure où moi je vivais avec ce handicap depuis toujours, je comprenais. Ça. C'est-à-dire que le nanisme achondroplasie, qui est le nom scientifique de mon handicap, ça va au-delà de la petite taille, c'est aussi pouvoir assumer tout un suivi de santé derrière, qui s'est avéré parfois compliqué. J'ai porté des corsets, j'ai été opérée plusieurs fois. J'ai encore un suivi très scrupuleux aujourd'hui au niveau santé. Ce qui vraiment, au moment de ma naissance, d'ailleurs, quand mes parents m'ont adoptée, ils ne savaient même pas si j'allais marcher.
Oui, c'est ça. Donc, ils ont eu peur. Oui. Et alors, ce qui vous a bouleversé aussi, c'est que vous avez trouvé une lettre dans votre dossier.
Oui, c'était un courrier administratif, une démarche que devait effectuer ma mère biologique. Et j'ai vu qu'on avait la même écriture.
Ah là là.
Et c'est assez surprenant de quelque chose qu'on imagine qui est plutôt de l'ordre de l'acquis. Mmh. Et là, c'est de l'ordre peut-être de l'inné.
Ça, c'est vraiment bouleversant.
Oui.
Est-ce que vous avez essayé de prendre contact avec elle, avec cette mère biologique ensuite?
Tout à fait. En fait, via la personne qui m'a reçue au conseil départemental, elle a été l'intermédiaire pour prendre contact avec elle. Et le premier contact a été un contact téléphonique.
Ah oui. Et alors, cette voix?
L'impression de s'entendre avec quelques années de plus et un autre accent.
Carrément?
Oui.
La même voix?
Oui, des intonations que je retrouvais quand m'était arrivé d'enregistrer ma propre voix. Et c'est assez surprenant. Et ce premier contact, oui, par l'oreille.
Bon, incroyable. Donc, vous l'avez tout de suite reconnu, finalement, quand vous l'avez entendu?
Oui, quelque part, il y avait cette reconnaissance d'une filiation.
Elle vous a dit quoi, alors?
Pardon.
Elle vous a demandé pardon?
Déjà au téléphone, et puis ensuite, on s'est rencontrés. Mmh. On s'est rencontrés, je crois que 15 jours après. On avait rendez-vous donc, au conseil départemental, là où j'avais ouvert mon dossier. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rencontrés dans le métro, parce qu'on allait au même endroit au même moment. Et au moment de la rencontre, elle m'a serré très fort contre elle, et elle m'a demandé pardon. Et j'ai senti de suite cette culpabilité chez elle, d'avoir fait ce geste d'abandon. Moi, je comprenais totalement par rapport à tout ce que j'avais
vécu. Vous lui avez pardonné?
Oui. Par rapport à tout ce que j'avais vécu par rapport au handicap.
Et quand vous la voyez, alors, vous avez un élan d'amour, qu'est-ce qu'on ressent? On a du mal à imaginer ce que ça peut faire.
Un élan d'amour, non, mais une forme de reconnaissance dans le miroir.
Oui, c'est ça.
C'est une filiation qu'on recherche depuis tant d'années.
Quelque chose qui se remet à sa place.
C'est ça. Les cheveux que j'avais imaginés, elle avait les mêmes cheveux que moi. Ouais. Et c'est ça. C'est une forme de reconnaissance de soi à travers l'autre.
Ouais. Vous la voyez toujours?
Non. Elle a coupé les ponts un an et demi après. On a gardé contact.
Elle a coupé les ponts?
Oui, elle a coupé les ponts.
Donc c'est un deuxième abandon, c'est un peu quand même aussi.
Oui, quelque part, ça a été un petit peu difficile parce que on avait quand même tissé un lien. Je l'avais même reçu chez moi. Et on avait tissé un lien via des longues conversations au téléphone. Mais finalement, moi, de l'avoir rencontrée, je ne le regrette vraiment pas parce que je sais d'où je viens.
Et puis, elle a justifié comment le fait qu'elle coupe les ponts comme ça?
Pour elle, c'était trop difficile.
Elle n'arrivait pas à assumer.
Et puis, le fait, Elle avait abandonné un bébé.
Oui.
Et elle retrouvait une adulte.
Oui, c'est ça.
Qu'elle ne reconnaissait pas comme sa fille.
Et alors, vous avez essayé de recontacter votre père aussi, biologique?
Oui, 5 ans plus tard, je l'ai recontacté. Là, j'avais moins d'attentes par rapport à mon père biologique. Et puis surtout, j'étais plus mature. Et le contact s'est fait déjà par téléphone, parce que j'ai retrouvé dans l'annuaire. Et on s'est rencontrés une fois, on s'est revus 2-3 fois. Mais avec lui, j'étais contente de mettre un visage sur mon père biologique. Mais j'ai senti de suite qu'il n'y avait pas de relation non plus.
Voilà, ça n'allait pas être une grande histoire non plus.
Tout à fait, parce que lui, il revenait toujours sur l'abandon, que c'était la cause de sa femme, alors que l'histoire était plus complexe que ça.
Oui.
Et puis, moi, c'est vraiment sans regret que c'est moi qui lui dis bah non, stop, on va arrêter de se voir. Et j'étais contente d'avoir enfin retrouvé finalement mes deux identités.
Alors après, il va se passer beaucoup de choses, parce qu'à 31 ans, il y a un nouveau tournant, vous allez déménager à Paris,
oui.
Vous allez assumer l'envie d'être comédienne, voilà, vous voulez tenter votre chance, vous allez faire assumer aussi votre homosexualité, c'était un petit peu comme ça en vous, vous ne le disiez pas trop et vous l'assumez, c'est un nouveau départ pour vous et vous perdez votre mère adoptive aussi, donc tout ça c'est une tempête,
oui.
C'est une période...
C'est en moins d'un an entre le moment où je décide de venir sur Paris, j'en parle à mes parents, je leur dis même pas que c'est parce que je veux devenir comédienne, parce que je n'ai pas envie de les inquiéter, j'ai mon autre métier de chargée de communication qui me permet de vivre dignement et j'ose pas leur dire. Et puis, arrivée à Paris, dans la ville de cosmopolite qu'on connaît, dans cette vie de ville d'ode à la différence, j'ai vraiment, je me suis dit, c'est le moment d'assumer pleinement mon énième diversité. Parce que mon sexualité, c'était un peu difficile de l'assumer parce que je me disais, mais quand j'étais plus jeune, pas ça en plus. Des origines, de l'adoption, le handicap, l'homosexualité, c'était un peu beaucoup. Mais si je veux vivre heureuse, eh ben, il faut que je l'assume enfin.
Et pour être heureuse, vous l'êtes là aujourd'hui, parce que vous êtes enceinte de 8 mois, je le disais quand on a démarré cette conversation toutes les deux. C'est vrai que c'est l'ouverture de la PMA aux femmes seules qui vous a donné envie donc, de vous lancer dans cette aventure. Comment est-ce que vous vivez votre grossesse là aujourd'hui?
Alors très bien, ça a été vraiment finalement un parcours assez simple.
Oui.
À partir du moment où je me suis décidée, où j'ai pris connaissance que c'était possible de faire une PMA avec ce qu'on appelle le DPI, diagnostic préimplantatoire, pour éviter de transmettre ma maladie génétique, qui est le nanisme achondroplasie. Et les délais d'attente en France étaient trop longs, donc je suis allée au Portugal. Et ce qui m'intéressait pour le Portugal, c'est que le donneur n'est pas totalement inconnu. À 18 ans, l'enfant, donc mon fils, ce sera un petit garçon, pourra connaître effectivement le donneur. Et moi, par rapport à son histoire, le fait d'avoir eu toute cette démarche de recherche des origines, pour moi, je vis la PMA un peu comme une forme d'adoption, c'est-à-dire j'adopte le patrimoine génétique.
Oui, c'est ça.
D'un monsieur que je ne connais pas.
Oh. Nous accueillons le docteur Romain Dugravier. Bonjour docteur, merci
Bonjour.
D'être avec nous. Vous êtes pédopsychiatre au centre psychopathologie périnatale à l'Institut Paris-Brune, au centre hospitalier Sainte-Anne. Alors, on a vu, il y avait les retrouvailles, là, parce qu'on va parler un petit peu avec vous du thème de l'adoption. Il y a les retrouvailles avec sa mère biologique et ensuite, la mère biologique qui décide de couper les ponts un an et demi après. Comment est-ce qu'on peut se remettre de ce deuxième abandon? Est-ce que c'est des choses qui arrivent souvent quand on recherche un parent biologique?
Alors souvent, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que ce soit très fréquent, non. Mais je pense que c'est ce que disait Sonia, je crois, tout à l'heure. Elle disait qu'en allant chercher sa mère biologique, elle allait chercher ses origines, en fait.
Oui, c'est ça.
Pourquoi? Comment?
La filiation, elle a beaucoup prononcé ce mot-là.
La filiation biologique. Et je pense qu'il faut distinguer la filiation biologique des autres formes de filiation. Qui s'occupe de nous? Qui a l'autorité parentale, au sens même légal? Et puis la filiation des personnes qui ont pris soin de nous au quotidien et qui nous ont permis de grandir et de se structurer aussi. Et donc c'est pour ça que, évidemment, c'est très violent ce qu'on entend de ce deuxième abandon, mais je pense que ça révèle le fait que cette femme, à ce moment-là, ne pouvait pas se sentir dans l'incapacité d'être mère avec elle. Et donc c'est la possibilité d'être élevée par ses parents.
Ça, c'est un acte d'amour, en fait. Parfois, on peut le prendre aussi avec ce prisme-là, se dire, voilà, moi, je ne vais pas être apte autant qu'elle soit heureuse dans une famille aimante. Bon, c'est la façon de voir le verre à moitié plein.
C'est vrai. Oui, tout à fait. Ophélie vous demande quand et comment il faut parler aux enfants adoptés de leur histoire. Est-ce qu'il faut tout leur raconter?
Alors, pendant longtemps, on imaginait que c'était une révélation, qu'il fallait un jour se mettre en face de l'enfant et lui raconter son histoire d'adoption.
Maintenant, de manière solennelle.
Voilà, un peu solennelle, ouais. Et un petit peu le moment où enfin il y a une annonce. Mm-hmm. Je pense, et puis on pense tous, que l'annonce, ça n'a pas de sens. Et vraiment, l'adoption, c'est quelque chose qui se raconte dans le quotidien des temps passés avec l'enfant. Il y a plein d'opportunités pour ça. Même un bébé a besoin qu'on lui raconte son histoire, comment on l'a rencontré, ce qu'on sait de ce qu'il a vécu éventuellement. Donc je pense que c'est vraiment un processus du quotidien autour de la construction de la parentalité. Et après, tout dire, ben, on ne raconte pas les choses de la même façon. Un bébé d'un an, un enfant de 5 ans et un enfant de 12 ans, donc probablement qu'on raconte au fur et à mesure de ce qu'il peut entendre et comprendre aussi.
Et finalement, le fait d'en parler assez tôt permet certainement aussi aux parents de s'habituer à intégrer cette histoire et à ce qu'il y ait zéro tabou, zéro sentiment de négatif autour de ça, quoi.
Ouais, en fait, c'est processuel. Je pense que c'est vraiment ce qui crée les conditions de la sécurité. Se sentir soi-même le parent de cet enfant par l'expérience qu'on vit ensemble et par ce qu'on peut en raconter aussi. Voilà.
Anne vous demande pourquoi tant d'enfants, même s'ils aiment leurs parents adoptifs, ont besoin de connaître leur origine.
Je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vraiment cette question de comment j'ai été conçu, d'où je viens. Et ce qu'évoquait Sonia sur la ressemblance, sur le fait de pouvoir trouver des similitudes. Mais encore une fois, ce n'est pas retrouver ses parents, c'est retrouver les gens qui nous ont conçus dans cette filiation biologique. Nos parents, c'est ceux qui nous élèvent dans le quotidien, qui se lèvent la nuit, qui s'occupent de nous quand on est en détresse. Ouais.
Qui sont là dans les bons et dans les mauvais moments, exactement. Qui sont là au quotidien.
Alors, Eugénie a cette question très intéressante. Elle vous dit, à partir de quel âge les enfants commencent-ils à s'intéresser à leurs origines? Comment répondre aux questions qui vont surgir? Il y a un âge?
À partir duquel
ils s'interrogent.
Si on le raconte dans la continuité, je pense qu'il n'y a pas d'âge. Ça se passe toujours. Et puis, même les bébés, ils ont des choses à raconter de leur expérience préalable. Ensuite, c'est vrai que c'est ce qu'on évoquait. La question de la différence du regard social peut raviver certaines questions. Mais ça se passe dès l'entrée à l'école, en fait, dès les premiers temps.
Michael nous dit « Nous voulons être transparents sur l'adoption de notre enfant, mais je crains de vivre difficilement l'éventuelle recherche de ses origines, de le ressentir comme un désamour. » Et il vous demande si c'est normal.
Ouais. Je pense que ça fait partie des questions que se posent les parents adoptants. Comment je vais pouvoir me sentir suffisamment le parent de mon enfant? Donc, je pense que c'est un mouvement très naturel et que ça se déconstruira, se transformera justement par le processus et par l'expérience de la parentalité ensemble. En fait, ce qu'on vit en tant que parent et tout ce qu'on offre à son enfant fait qu'on peut aussi lui donner la liberté de faire des expériences autres et donc aller dans cette quête des origines.
Voilà, c'est vrai que dans la catégorie où on élève nos enfants pour leur donner des ailes, les parents adoptants, ils ont ça vraiment... Ouais. Énormément dans le fait qu'il y a cette possibilité d'aller chercher les parents biologiques.
Oui, mais vraiment, je pense qu'il faut entendre ça, c'est que c'est trouver quelque chose autour de l'identité, d'où je viens, mais ce n'est pas retrouver des parents.
Mais c'est ça qui est très important, en fait. Ouais. Et vous en suivez, vous, beaucoup des parents adoptants qui se posent ce genre de questions, qui n'arrivent pas à dépasser ça?
Oui, moi, je vois des gens qui sont en difficulté dans leur parentalité. Donc, bien sûr, je crois que ce n'est pas le commun. Mais oui, dans ma pratique clinique, ce sont ceux-là qui viennent consulter et qui s'interrogent justement sur l'identité de parents. Mais c'est vrai avec la PMA aussi.
C'est ce que je voulais dire, le don d'ovocytes, par exemple.
Est-ce que je suis vraiment parent?
Voilà, merci au docteur Romain Dugravier, merci à Sonia et merci à vous d'avoir écouté cet épisode du podcast des maternelles. N'hésitez pas à le partager autour de vous et n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram en particulier, si vous souhaitez nous suggérer des idées de thèmes de podcast. Ciao tout le monde !